Donc du coup, le sujet que je vais présenter s'intitule donc le death metal suédois comme outil de transmission d'une vision suédoise de la musique. Le death metal suédois apparaît à la toute fin des années 80. Le punk est le seul genre de musique agressif qui existe dans les années 80 en Suède. C'est assez étonnant quand on connaît la réputation de pays du métal qui va acquérir la Suède un peu après. Ces groupes de punk de l'époque sont quelque peu anecdotiques, dû à un manque de succès au moment où ils étaient présents. On retrouve du coup le genre de D-beat, qui est un genre de punk plutôt connu pour ses percussions agressives et rapides. Du coup, c'est un genre de punk anglais qui émerge en Suède dans les années 80. On peut aussi parler de krang punk en suédois. Des noms ressortent du lot pour diverses raisons différentes. On a Mob 47, qui était le groupe le plus rapide de l'époque. Anti-Cimex, pour avoir composé l'un des albums de punk les plus agressifs de tous les temps, qui s'appelle Rapetas. Et Asocial, qui était l'un des plus techniques, agressifs et efficaces en même temps. Nicke Andersson, guitariste du groupe Entombed, racontera qu'il était punk dans sa jeunesse. Et Matt Svensson, de Asocial, raconte que le death metal est son principal amour dans sa vie. À l'international, des groupes comme Deheri et Napalm Death commencent à faire parler d'eux dans leurs pays respectifs. En 1983, il y a un précurseur qui arrive au death metal suédois du nom de Bathory. Bathory sort le premier album de metal extrême suédois en 1984, qui est un album éponyme. Corton, que vous pouvez voir sur la droite, est le seul membre restant après l'enregistrement du premier album. Mais le batteur se nomme Jonas Åkerlund, c'est un nom un petit peu important pour après. Donc l'enregistrement est absolument désastreux, le son de l'album est très très mauvais, les techniciens son du studio ne savaient pas faire sonner de la musique extrême à cette époque en Suède, et les membres du groupe étaient plutôt jeunes, et n'osait pas vraiment s'interposer en disant « Oui, mais regardez, le son n'est pas génial. » Voilà. Et cette esthétique « crade », entre guillemets, non voulue par Corton, sera emblématique de la scène black metal norvégienne, dont les membres étaient très fans des premiers essais de Bathory. Corton voulait aller plus loin, il voulait faire toujours plus extrême que le punk duquel il vient. Et le départ des deux autres membres du groupe favorisera sa vision des choses. Durant la seconde moitié des années 80, des jeunes Stockholmois découvrent Bathory petit à petit. Chaque groupe sort des petites démos avec leur vision à eux de la musique extrême. Ils sont influencés par une émission musicale nommée Hod Rock, qui arrivera après Rockbox, dans un style assez similaire. Même si ces programmes radio ne passaient que peu de métal extrême, ou même de métal en général, c'était suffisant pour que les jeunes punk métalleux suédois enregistrent sur cassette les émissions pour les réécouter en boucle et en boucle. Ces jeunes ont pu découvrir des styles tels que le thrash metal ou le crossover, qui sont plutôt américains. Le thrash metal a eu une scène en Suède peu avant le death metal, mais peu de groupes ont survécu, car apparemment les groupes étaient plutôt mauvais. Et aussi au fait que ce n'était plus suffisamment extrême avec l'arrivée du death metal. La scène à Stockholm était petite et plus ou moins tous les groupes se connaissaient. Les groupes se faisaient, se défaisaient. Tous les jeunes métalleux se retrouvaient dans ce célèbre magasin de Stockholm qui s'appelle Heavy Sound pour faire ce qu'on appelle du tape trading. Et pour afficher aussi une annonce pour former un groupe, pourquoi pas, ça arrivait. Distribuer aussi des fanzines, qui sont des petits magazines artisanaux. Dans ce cas-ci, ça parle principalement de death metal. Les jeunes groupes, du coup, déposaient une démo et de leur groupe, puis repartaient avec la démo d'un autre groupe, parfois suédois, parfois, pourquoi pas, norvégien, allemand, brésilien, s'ils avaient de la chance. C'est passionné, du coup, de passer des heures à faire ceci. Ils étaient dans certains tape traders passionnés passaient leur temps à envoyer des cassettes à l'autre bout du monde dans l'espoir de recevoir une réponse. Les États-Unis, le Brésil, des fois simplement l'Europe, hein, c'est pas besoin d'aller très loin non plus. Et du coup, grâce au tape trading, les jeunes métalleux suédois ont pu découvrir ce qui se passait à l'autre bout du monde en termes de musique extrême, mais aussi également transmettre leur vision de la musique extrême qu'ils ont pu enregistrer. Voilà. À la fin des années 80, une petite scène est formée autour de Stockholm. Le line-up des groupes se stabilise petit à petit et les premiers concerts ont lieu. En 1988, des grands groupes de métal extrême internationaux tournent en Suède, ce qui est un événement majeur pour le death metal suédois. D'abord, les Anglais de Napalm Death qui arrivent, dont Entombed fera la première partie. Puis, semaine après semaine, les grands noms s'enchaînent en Suède. Donc, pour les Allemands, il y avait Creator et Sodom. Pour le Brésil, il y avait Sepultura. Pour les États-Unis, il y avait Obituary. Pour les Pays-Bas, il y avait Pestilence, pour ne citer que. Les groupes de death metal suédois ont pu être repérés par différents labels étrangers. Entombed décrochera un contrat jugé mauvais a posteriori avec Earache Records, le plus gros label de musique extrême de l'époque. Entombed compose et enregistre le deuxième album de death metal suédois de l'histoire, mais c'est le premier qui aura du succès. On retrouve le son du Sunlight Studio à Stockholm, qui est devenu une institution du death metal suédois. Et on entend également la pédale d'effet Boss HM2, qui deviendra un incontournable pour tout groupe qui veut avoir un son dit suédois. Plusieurs groupes du monde entier découvriront et utiliseront cette pédale grâce aux groupes suédois. On a par exemple Fange pour le sludge français ou bien Iron Flesh pour le death metal mélodique, toujours français. Entombed réalisera un clip de mauvaise qualité qui sera envoyé à MTV et cette mauvaise qualité sera justifiée en disant que c'était voulu a posteriori. D'autres groupes qui étaient déjà présents à la fin des années 80 décrochent également des contrats, mais avec d'autres labels. Petit à petit, mais ce sont des labels qui sont quand même très connus aujourd'hui dans le métal. On a du coup Century Media qui avait signé A Grave, un groupe de Visby. Nuclear Blast avait signé Dismember et Therion a été signé chez Death Imprint qui est une filiale de Peaceville Records. Tous ces groupes sont des groupes de jeunes qui écoutaient du punk et du thrash metal qui avaient pour but de faire plus rapide, plus violent, plus lourd, plus méchant que ce qu'ils connaissaient. Ces jeunes n'ont réussi à faire enregistrer leurs démos que grâce à l'argent donné par leurs parents, aux aides financières de l'État, avec des jobs, et des aides à la culture aussi de certaines villes suédoises. Tout ceci et beaucoup de chance ont permis à la Suède de sortir son épingle du jeu dans un style de musique dont absolument rien ne laissait présager un succès aussi important. Donc plus tôt, j'ai parlé de Jonas Åkerlund, de Bathory. Et du coup, je vais vous dire pourquoi il est important. Jonas Åkerlund est aujourd'hui un réalisateur renommé de films et de clips musicaux. Il réalise de nombreux clips pour des artistes très célèbres. Son premier clip est le clip de Bewitched, de Candlemass, absolument mythique pour la scène métal suédoise. Il réalise tout au long de sa carrière des clips comme Porcelain et le thème de James Bond pour Moby, Smack My Bitch Up pour The Prodigy, Wake Up Call pour les Maroon 5, plein de clips pour Rammstein, pour Madonna, Lady Gaga, Metallica et plein d'autres. La particularité de Jonas Åkerlund vient de son côté extrême et provocateur qu'il tire de son rapport au métal. Il réalisera un film qui s'appelle Lord of Chaos, qui racontera l'histoire des groupes Mayhem et Burzum, des groupes absolument mythiques dans le black metal norvégien. Je n'ai pas parlé de Grotesque, un groupe de death metal de Göteborg, qui a eu son importance dans la définition du genre death metal. Göteborg est plutôt connu pour un son death metal mélodique aujourd'hui, mais ça arrivera un petit peu plus tard. Le guitariste Christian Wåhlin jouera dans divers groupes après Grotesque, mais il est surtout connu pour son travail en tant que graphiste pour des pochettes d'albums. Il a surtout travaillé avec de nombreux groupes suédois de death metal et de black metal, mais son style a réussi à s'exporter. Il créera une pochette, par exemple, pour Bloodhouse North, qui est un groupe de Mondeville, pour Emperor, qui sont norvégiens, pour Nocturnal Mortum, des Ukrainiens, Suicidal Angel, de Grèce, plusieurs pochettes pour Enciferum aussi, un groupe finlandais. Son style est clairement affilié au métal extrême, mais le travail de Christian Wåhlin reflète un style death metal suédois avant tout, et c'est cette esthétique qui laisse transparaître en fait dans ses œuvres. Je n'ai pas non plus parlé de Dan Soane, dont la liste de projets et de groupes est beaucoup trop longue. Il a fondé le groupe Age of Sanity. Le groupe amène une certaine fraîcheur dans le death metal suédois au début des années 90, après le succès de Entombed, des Dismember, puis d'autres. Il est notamment producteur pour Opeth, Insomnium ou Theater of Tragedy, batteur pour Catatonia et chanteur pour Therion. Son expérience et ses compétences sont très prisées en Suède et ailleurs. Ses débuts dans le death metal lui ont permis de s'améliorer d'un point de vue du mixage et de la production. Et ceci permet de lui faire, ça fait valoir un certain savoir-faire dans la musique métal et une certaine connaissance des musiques extrêmes. Donc on a pu voir comment le death metal suédois est né. L'influence du tape trading et l'arrivée des concerts de groupes étrangers ont permis aux groupes locaux de construire leur propre style pour, à leur tour, exporter leur style à l'international, grâce aux labels qui ont aidé à l'exportation notamment. Le death metal suédois est devenu une institution en Suède grâce aux talents que la Suède exporte. La Suède peut quand même se targuer d'être la troisième puissance mondiale, et le death metal a joué un rôle sur ce plan, au même titre que des ABBA, Avicii, Basshunter, The Hives, Europe, puisque des groupes comme In Flames, Meshuggah, Arch Enemy ou Amon Amarth puisent une partie de leur succès planétaire dans leurs racines death metal. Merci beaucoup.
Merci Timothée. Y a-t-il des questions ?
Oh, oui.
Merci pour le micro, c'était très drôle. J'ai une question par rapport à Bathory et donc au black metal norvégien. Est-ce que Bathory a influencé une scène déjà existante ou est-ce que Bathory a fondé cette scène ?
En fait, faut voir en fait qu'en Norvège, la musique extrême était assez nouvelle également à ce moment-là. Et puis, c'est surtout que le métal extrême, déjà dans les pays du Nord, existait très peu. Ce qui pourrait se rapprocher du premier groupe dans les pays nordiques, ce serait Merciful Fate au Danemark, qui influencera au même titre que Bathory, mais c'est
pas exactement le même style, mais voilà, ça, ça fait partie des influences qui arriveront plus tard. Et non, si je dis pas de bêtises, les groupes de black metal norvégiens se forment à la seconde moitié des années 80, qui arrivera donc forcément après Bathory. Voilà, après, je peux me tromper, il peut y avoir deux trois groupes un peu rock qui voulaient aller plus loin déjà à l'époque. Mais oui, je pense que Bathory a plus servi d'exemple pour le black metal plutôt que vraiment juste une influence qui arrivera après.
D'autres questions? Moi j'en avais une, c'était plus par curiosité, mais tu as cité beaucoup de noms de groupes d'artistes. Si tu devais en choisir un en particulier, ce serait lequel et pourquoi?
Je pense quand même que je citerai Entombed, qui, du coup, comme je le disais, a réalisé le deuxième album de death metal suédois. Le premier a été fait en Norvège par Merciless, si je dis pas bêtises. Pas de bêtises, mais il n'a pas été promu suffisamment. Et oui, je dirais Entombed, puisque le son est très caractéristique en fait de cette scène. C'est vraiment ce qui va faire en sorte qu'on identifie le death metal suédois à des kilomètres à la ronde. C'est par cette fameuse pédale HM2, c'est par le jeu de guitare de Nicke Andersson, qui est absolument unique. Nicke Andersson, qui ne connaissait tout simplement pas la musique metal avant d'écouter les groupes suédois, de faire du tape trading. Et par exemple, des groupes comme King Crimson, groupe très respecté de rock progressif américain, si je ne dis pas de bêtises, il ne connaissait pas du tout. Parce qu'on lui a dit, oui, vous ne trouvez pas quand même que votre musique ressemble un peu à King Crimson à ce passage-là? Il fait, c'est qui? Donc bon, voilà. Et c'est assez unique comme sensation. Et puis les trois premiers albums de Entombed sont si différents. C'est déjà le deuxième album de Entombed. Est-ce qu'on peut déjà continuer de parler de death metal à proprement parler, comme le premier a pu l'être, quoi. Mais oui, non, si, je pense que ce serait celui-là pour parler du death metal.
Merci.
Merci à vous.